La conquête du pain. Cinquième partie, chapitre 7. Toute la grande ville, nous l'avons dit, achète leur blé, leur farine, leur viande, non seulement dans les départements, mais encore à l'extérieur. L'étranger envoie à Paris les épices, le poisson et les comestibles de luxe, des quantités considérables de blé et de viande. Mais, en révolution, il ne faudra plus compter sur l'étranger, ou y compter le moins possible. Si le blé russe, le riz d'Italie ou des Indes, et les vins d'Espagne et de Hongrie affluent aujourd'hui sur les marchés de l'Europe occidentale, ce n'est pas que les pays expéditeurs en possèdent trop ou que ces produits y poussent d'eux-mêmes, comme le pissenlit dans les prés. En Russie, par exemple, le paysan travaille jusqu'à 16 heures par jour et jeûne de 3 à 6 mois chaque année afin d'exporter le blé avec lequel il paie le seigneur et l'État. Aujourd'hui, la police se montre dans les villages russes dès que la récolte est faite et vend la dernière vache, le dernier cheval de l'agriculteur, pour arriérer d'impôts et de rentes au seigneur, quand le paysan ne s'exécute pas de bonne grâce en vendant le blé aux exportateurs. Si bien qu'il garde seulement pour 9 mois de blé et vend le reste, afin que sa vache ne soit pas vendue 15 francs. Pour vivre jusqu'à la récolte prochaine, 3 mois quand l'année a été bonne, 6 quand elle a été mauvaise, il mêle de l'écorce de bouleau ou de la graine d'aroche à sa farine, tandis que l'on savoure à Londres les biscuits faits avec son froment. Mais dès que la révolution viendra, le cultivateur russe gardera le pain pour lui et ses enfants. Les paysans italiens et hongrois feront de même. Espérons aussi que l'hindou profitera de ces bons exemples ainsi que les travailleurs des Bonanza Farms en Amérique, à moins que ces domaines ne soient déjà désorganisés par la crise. Il ne faudra donc plus compter sur les apports de blé et de maïs venant de l'extérieur. Toute notre civilisation bourgeoise, étant basée sur l'exploitation des races inférieures et des pays arriérés en industrie, le premier bienfait de la Révolution sera déjà de menacer cette civilisation en permettant aux races dites inférieures de s'émanciper. Mais cet immense bienfait se traduira par une diminution certaine et considérable des apports de denrées affluant vers les grandes villes de l'Occident. Pour l'intérieur, il est plus difficile de prévoir la marche des affaires. D'une part, le cultivateur profitera certainement de la révolution pour redresser son dos courbé sur le sol. Au lieu de 14 à 16 heures qu'il travaille aujourd'hui, il aura raison de n'en travailler que la moitié, ce qui pourra avoir pour conséquence l'abaissement de la production des denrées principales, blé et viande. Mais d'autre part, il y aura augmentation de la production, dès que le cultivateur ne sera plus forcé de travailler pour nourrir les oisifs. De nouveaux espaces de terrain seront défrichés. Des machines plus parfaites seront mises en train. Jamais labour ne fut si vigoureux que celui de 1792, lorsque le paysan eut repris au seigneur la terre qu'il convoitait depuis si longtemps, nous dit Michelet en parlant de la Grande Révolution. Sous peu, la culture intensive deviendra accessible à chaque cultivateur. Lorsque la machine perfectionnée et les engrais chimiques et autres seront mis à la portée de la communauté. Mais tout porte à croire qu'au début, il pourra y avoir diminution dans la production agricole en France aussi bien qu'ailleurs. Le plus sage, en tout cas, serait de tabler sur une diminution des apports, aussi bien de l'intérieur que de l'étranger. Comment suppléer à ce vide? Parbleu, se mettre soi-même à le remplir. Inutile de chercher midi à 14 heures, quand la solution est simple. Il faut que les grandes villes cultivent la terre, aussi bien que le font les campagnes. Il faut revenir à ce que la biologie appellerait l'intégration des fonctions. Après avoir divisé le travail, il faut intégrer. C'est la marche suivie dans toute la nature. D'ailleurs, philosophie à part, on y sera amené de par la force des choses. Que Paris s'aperçoive qu'au bout de 8 mois, il va se trouver à court de blé, et Paris le cultivera. La terre, elle ne manque pas. C'est surtout autour des grandes villes, de Paris surtout, que se groupent les parcs et les pelouses des seigneurs, ces millions d'hectares qui n'attendent que le labeur intelligent du cultivateur pour entourer Paris de plaines autrement fertiles, autrement productives que les steppes couvertes d'humus, mais desséchées par le soleil, du midi de la Russie. Les bras, mais à quoi voulez-vous que les 2 millions de Parisiens et de Parisiennes s'appliquent quand ils n'auront plus à habiller et à amuser les princes russes, les boyards roumains et les dames de la finance de Berlin? Disposant de tout le machinisme du siècle, disposant de l'intelligence et du savoir technique du travailleur fait à l'usage de l'outil perfectionné, ayant à leur service les inventeurs, les chimistes et les botanistes, les professeurs du jardin des plantes, les maraîchers de Gennevilliers, ainsi que l'outillage nécessaire pour multiplier les machines et en essayer de nouvelles, ayant enfin l'esprit organisateur du peuple de Paris, sa gaieté de cœur, son entrain, l'agriculture de la commune anarchiste de Paris sera tout autre que celle des piocheurs de l'Ardenne. La vapeur, l'électricité, la chaleur du soleil et la force du vent seraient bientôt mises en réquisition. La piocheuse et l'épierreuse à vapeur auraient vite fait le gros travail de préparation. Et la terre, attendrie et enrichie, n'attendrait que les soins intelligents de l'homme, et surtout de la femme, pour se couvrir de plantes bien soignées, se renouvelant 3-4 fois par année. Apprenant l'horticulture avec les hommes du métier, essayant sur des coins réservés 1000 moyens divers de culture, rivalisant entre eux pour atteindre les meilleures récoltes, retrouvant dans l'exercice physique sans exténuation ni surtravail les forces qui leur manquent si souvent dans les grandes villes, hommes, femmes et enfants seraient heureux de s'appliquer à ce labeur des champs qui cessera d'être un travail de forçat et deviendra un plaisir, une fête, un renouveau de l'être humain. Il n'y a pas de terre infertile. La terre vaut ce que vaut l'homme. Voilà le dernier mot de l'agriculture moderne. La terre donne ce qu'on lui demande. Il s'agit seulement de le lui demander intelligemment. Un territoire, fut-il aussi petit que les 2 départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, et eût-il à nourrir une grande ville comme Paris, suffirait pratiquement pour combler les vides que la Révolution pourrait faire autour de lui. La combinaison de l'agriculture avec l'industrie, l'homme agriculteur et industriel en même temps, c'est à quoi nous amènera nécessairement la commune communiste, si elle se lance franchement dans la voie de l'expropriation. Qu'elle aborde seulement cet avenir. Ce n'est pas par la famine qu'elle périra. Le danger n'est pas là. Il est dans la couardise d'esprit, dans les préjugés, dans les demi-mesures. Le danger est là où le voyait Danton, lorsqu'il criait à la France « De l'audace ! De l'audace et encore de l'audace. Surtout de l'audace intellectuelle, que ne manquera pas de suivre aussitôt l'audace de la volonté.